Europe Matin, le 6-9.
François Claus.
Et nous sommes très heureux d'accueillir pour ce tête-à-tête ce matin sur Europe 1 l'administrateur de la Comédie Française. Bonjour Éric Ruff.
Bonjour.
Je vais me permettre de commencer par un souvenir personnel. Je devais avoir entre 12 et 14 ans, moi le petit provincial. Un 31 décembre, le cadeau de mes parents pour Noël fut, moi et mon frère, de nous proposer une place à la Comédie Française. C'était du Molière, ce soir-là, l'école des fans, avec une toute jeune actrice, Isabelle Adjani, et un grand monsieur du théâtre, Pierre Dux. C'était Il y a 50 ans, un demi-siècle presque, et j'ai encore cette soirée chevillée au corps, sa magie, cette magie du théâtre qu'on vit généralement et de manière très nombreuse le 31 décembre, on ne l'aura pas ce soir, Éric Ruff.
Non, on ne l'aura pas. Et malheureusement, c'est un souvenir très beau que vous évoquez. On a rediffusé ce spectacle et il n'a pas vieilli d'un iota. C'est assez impressionnant. Ni Pierre Dux, ni Isabelle Adjani. Mais oui, le 31, on ne jouera pas. On ne jouera pas le 1er en matinée. On n'a pas joué le 24. On ne jouera pas le 25. C'est totalement exceptionnel. C'est historique, hein, la Comédie Française. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire arrêter cette maison. Des guerres, des révolutions, etc. Elle n'a pratiquement jamais arrêté. Elle a arrêté un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, elle est arrêtée depuis des mois et des mois. C'est totalement historique. Donc, c'est contre nature, c'est parodant, c'est épuisant.
Et ce confinement vous a obligé à inventer une autre forme de théâtre. Alors, certains y verront un douloureux pis-aller, d'autres peut-être une évolution du spectacle vivant. Mais vous avez été très présent, Éric Ruff, sur les réseaux sociaux pour faire vivre le théâtre à distance.
Oui, mais vous avez dit le maître mot, hein, être très présent. Alors, c'est un mot qui se retourne, évidemment, mais on dit beaucoup ce nouveau mot, le présentiel aussi. Donc, c'est vrai que la présence d'un acteur, être en présent, être en live, comme on dit en anglais, c'est vraiment l'essence même du théâtre. Donc, je comprends les gens qui ont du mal à supporter que on parle de cette période comme une espèce d'invention ou de renouveau. C'est vrai que je le considère, moi, comme un pis-aller. On aimera beaucoup cesser de le faire. Pas cesser de le faire, parce que finalement, on a plongé là-dedans, on ne s'y connaissait pas beaucoup. Et puis, dès le premier confinement, il a fallu trouver les moyens d'exercer nos missions, de garder le lien avec le public, avec les élèves, l'éducation nationale, etc. C'est des choses qui nous importent beaucoup. Et puis, les acteurs étaient comme des lions en cage chez eux. Donc, il fallait leur donner matière à inventer, à raconter des histoires. Donc oui, on a beaucoup avancé là-dessus. Puis on s'est aperçu, effectivement, que ça crée une proximité assez incroyable avec le public.
C'est très paradoxal, hein. C'est très paradoxal.
Ouais, totalement paradoxal. Ouais, parce que de loin, alors je sais pas si finalement, devant nos écrans noirs, quand on fait des Skype, des Zoom et qu'on s'enregistre dans la solitude de sa cuisine, peut-être qu'on s'ouvre beaucoup plus que quand on est en présence avec quelqu'un. Donc il y a peut-être des choses qui ont été plus intimes, plus révélées, une matière humaine plus grande, mais en tout cas qui a marché. Et puis, tout le premier confinement, on a essayé d'inventer quelque chose. Enfin, c'était un peu les confinés par le confiné. Je crois que là où on a été un peu pertinent, c'est de se dire inventons quelque chose qui est basé sur ce que nous traversons tous et pas simplement d'aller diffuser tout ce que nous avons dans la collection audiovisuelle de la Comédie Française qui est très grande, mais plutôt de se dire mais qu'est-ce qu'on fait le hic et donc du théâtre, le ici et maintenant, le grand plaisir de la représentation. On s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de le trouver avec le numérique et par le biais d'une web télé, est-ce qu'on arrive à faire cette chose-là? Et ça a plutôt très 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 bien marché.
Donc, oui, parce que les chiffres, Éric Ruff, sont impressionnants. Hein. Alors, je sais, c'est relatif la manière dont on mesure une audience sur Internet, mais vous avez attiré de plus de 620 000 personnes là, sur justement votre comédie, quelle comédie qu'on pouvait voir sur votre chaîne web. Ça fait quand même 15 000 personnes en moyenne chaque jour.
Sur la Comédie d'automne, oui, on est bientôt à 800 000. Oui, ça fait beaucoup de monde. Alors évidemment que nous, quand on reporte ça en jauge, en nombre de spectateurs dans une salle, c'est très très impressionnant pour le coup. Mais on est très heureux parce que ça veut dire aussi que ça touche des gens qui physiquement ne viennent pas dans nos salles à Paris et qu'on ne touche pas forcément lorsqu'on fait des tournées en région, en France ou à l'international.
Ce qui est un motif d'espoir pour la suite, les gens ont besoin du théâtre. Hein. On évoquait avec le directeur du Festival de Cannes il y a quelques jours, à cette même heure sur l'antenne d'Europe 1, le problème peut-être des habitudes qui vont se perdre. Est-ce qu'on va finalement continuer à regarder les plateformes plutôt que d'aller dans une salle de cinéma? Là, ça témoigne quand même d'un besoin et d'un désir de théâtre qui est très fort.
Oui, absolument. Alors, un désir de théâtre, oui, c'est des gens qui vont revenir dans les salles, ça j'en suis sûr. D'ailleurs, les quelques fois où nous avons pu rejouer en fin septembre et octobre, les salles étaient remplies de gens. D'ailleurs, il y avait toujours à peu près deux saluts en plus par rapport à d'habitude, qui était presque un espèce de salut commun de retrouver ce plaisir-là. Donc ça j'ai pas de doute, mais je lis là-dedans aussi que les gens ont besoin aussi dans ces époques tellement troubles, où trouver le sens entre tout ça, entre les logiques éthiques, sanitaires, économiques, etc., le désir que nous avons d'essayer de comprendre quelque chose à cette chose assez incompréhensible, de pouvoir savoir où vont les miasmes, pourquoi ils vont là, pourquoi ils vont pas là. Évidemment, on est bien capable de le savoir. Donc, au milieu de tout ça, l'information qu'on nous donne à mesure d'heure, comme ça, elle est au bout d'un moment assez anxiogène, et je crois que de réécouter des histoires de grands poètes, de grands dramaturges, c'est une manière de s'informer, c'est une manière de comprendre le monde dont les gens ont besoin. Ça se sent, il n'y passerait pas autant de temps.
C'est tout le paradoxe des temps que nous vivons. La culture n'est pas un bien essentiel, il fallait rester fermé, et il n'y a jamais eu autant besoin ou de s'évader, de rire, ou de réfléchir au monde qui nous entoure, et c'est un paradoxe qui est difficile à vivre, Éric Ruff.
Oui, difficile à vivre, et en même temps, enfin, c'est comme des fois en amour, quoi. Il faut ne pas voir les gens pour s'apercevoir à quel point ils nous manquent. Donc, on traverse aussi ça, et on en ressortira, j'espère, avec un goût, avec un besoin et de diversité. Et de sens profond très grand. Nous, c'est difficile, évidemment, c'est difficile. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir de diriger un théâtre avec des forces vives, avec des permanents, avec 60 acteurs. Donc ça, c'est plus facile pour moi, parce que essayer d'accomplir nos missions par le biais du numérique, on y arrive quand même. C'est un pis-aller qui a encore une fois toutes les vertus qu'on vient d'énoncer, mais ça nous permet, nous, d'avancer, de tenir quand même. C'est extrêmement difficile pour ceux qui n'ont pas ces moyens humains.
Et pendant ce temps-là, la situation des théâtres privés, elle est terrible. Hein. Trois sont déjà en cessation de paiement à Paris, dont le théâtre des Blancs-Manteaux. Nous étions il y a quelques jours, Éric Ruff, avec Thierry Frébault, directeur du Festival de Cannes. On célébrait les 125 ans de la première projection de cinéma en France. Il y a un anniversaire très particulier dans le théâtre que vous vous apprêtiez à célébrer dans les semaines qui viennent, celui d'un grand monsieur, monsieur Molière.
C'est pas facile de prévoir et de se projeter actuellement, mais on va essayer vraiment de réussir cet anniversaire à partir du 15 janvier 2022, qu'on fera au 400e anniversaire de sa naissance. Je prévois que du Molière absolument partout, dans toutes nos salles, en tournée. On s'aperçoit, je vais garder en fait tous les rendez-vous que nous avons, de théâtre pour enfants, de cabaret, etc., des tournées, tout ce que nous faisons habituellement. Je ne vais rien changer, et je vais mettre Molière à la place, et on s'aperçoit que cet auteur est tellement génial, tellement policier, tellement riche que finalement il correspond à tous ces rendez-vous qu'on pourrait estimer trop contemporains. Il répond à chaque fois d'une manière extraordinaire.
Donc on pourra avoir le malade pas imaginaire, par exemple, ou des choses de cet ordre-là. Eh bien, on vivra, et je l'espère, en groupe, cet anniversaire singulier avec nos meilleurs vœux, hein, malgré tout, pour l'année à venir. Merci Éric Ruff d'avoir offert ce tête-à-tête ce matin à nos auditeurs d'Europe 1.
Je vous en prie.